s'amuse. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, ni maître, ni publicité. Parler ce soir de la manière dont deux artistes célébrissimes pour leur créativité débridée, comment ces deux artistes ont pu trouver leurs idées. Parce qu'en réalité, quand on regarde bien leurs œuvres, on s'aperçoit qu'il y a des petits mécanismes fort intelligents, qu'ils les ont appliqués avec constance et cohérence, et que ça a pu donner ces œuvres merveilleusement incohérentes que l'on aime beaucoup. Alors, ce sont deux artistes à la fois très similaires, ils ont beaucoup de choses en commun. Leurs personnalités, en revanche, sont totalement opposées, puisqu'il s'agit de Salvador Dali et de René Magritte. Donc, on va parler un petit peu de leur œuvre, surtout donc des mécanismes de leur œuvre, et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous allons commencer avec Dali. Dali dont la devise aurait pu être « Paranoïaque de tous les pays, unissez-vous ». En effet, Dali a toujours affirmé que la manière, le principe qui guidait son œuvre, c'était ce qu'il appelait la méthode paranoïaque critique. Et pour beaucoup de gens, ces mots « méthode paranoïaque critique », ça semble quelque chose d'un peu ridicule, absurde, enfin c'est à prendre aussi peu au sérieux que toutes ces inventions bizarroïdes que l'on retrouve dans ces toiles. En réalité, pas du tout. C'est une description tout à fait exacte de ce que fait Dali. Qu'est-ce que ça veut dire, méthode paranoïaque critique ? Ça veut dire interpréter, observer le monde réel avec l'obstination tenace, extravagante d'un paranoïaque, et puis après, à critiquer calmement tout ce que l'on a obtenu. Pour un paranoïaque, tout ce qui arrive a un lien avec lui ou avec ses ennemis. Pour lui, tout a un sens, tout est explicable. Donc, dans la méthode paranoïaque critique, la première étape consiste à tenter de trouver des significations ou des usages à tout. Vraiment, ce que Dali suggère en donnant les mots méthode paranoïaque critique, c'est quelque chose que font finalement quasiment tous les artistes. Il suggère une hyper attention à tout. Puis, ensuite, on met en relation tout ce que l'on a perçu, tout ce que l'on a vu, entendu, lu, etc., avec tout ce qu'on peut en penser. Alors évidemment, ceci va générer une énorme masse d'idées et d'hypothèses. Et donc à ce moment-là, on passe à la deuxième phase de la méthode paranoïaque critique, la phase critique. On regarde toutes ces idées, toutes ces hypothèses, on les passe au crible, on sépare ce qui est utilisable et fécond de ce qui est inutilisable et trivial. On peut le dire d'une troisième façon, phase 1, attention et curiosité intense. Phase 2, jeu imaginatif systématique avec les données tirer de l'attention et de la curiosité. Phase 3, évolution froide des hypothèses tirées du jeu imaginatif. C'est très intéressant, mais tout à fait entre nous, ça n'a rien de neuf. Énormément de gens prônent cette méthode, en particulier les psychologues de la créativité. Alors on pourrait se dire, mais puisque cette méthode est connue, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des milliers de petits Dali par le monde ? Tout d'abord parce que Dali appliquait ses principes à fond, constamment, jour après jour, heure par heure, minute par minute. Et puis, ensuite, parce qu'il avait le courage de mettre en pratique, de présenter ses idées novatrices, potentiellement farfelues, potentiellement ridicules. Le ridicule tue, il tue surtout les idées. je viens d'utiliser deux mots importants, le mot « jeu imaginatif » et « évaluation froide ». Et il faut comprendre que pour faire ces deux choses, Dali dispose d'une boîte à outils. Et c'est cette boîte à outils que nous allons ouvrir. Le premier outil, le plus simple, le plus évident, c'est le mélange. On prend deux objets appartenant à deux contextes opposés, on les place ensemble, et leur réunion donne quelque chose de neuf. Alors, les bons élèves en philosophie ont remarqué le lien de parenté entre ceci et la vieille astuce hégélienne à laquelle je reviens si souvent, thèse, antithèse, synthèse. Alors, c'est pas que ça soit moi qui revienne si souvent, c'est que c'est vraiment très intelligent et que c'est très fécond. Alors, prenons un exemple célébrissime de mélange, une œuvre qui est née exactement de ça. C'est une sculpture amusante de Dali, comme si souvent les œuvres de Dali. C'est un téléphone. Alors évidemment, ce ne sont pas les smartphones modernes, c'est le téléphone des années 50-60, un téléphone noir en bakélite avec un combiné. Mais justement, l'écouteur, ça n'est pas un écouteur de téléphone, c'est un homard. Un homard, évidemment, un faux homard en plâtre, peint de façon réaliste. Suffisamment réaliste pour que, pendant quelques instants, on croit qu'il s'agit d'un vrai homard. J'ai dit que le mélange, c'est prendre deux objets appartenant à deux contextes opposés. On va lister, on va pratiquer la méthode paranoïaque, on va lister les caractéristiques du téléphone, d'une part, et du homard, d'autre part. Et on va voir que tout les oppose. Le téléphone, c'est une machine. Le homard, c'est un être vivant. Le téléphone est un objet sec, terrestre. Le homard, humide, marin. Le téléphone, il est inactif s'il n'a pas d'électricité. Le homard, il est autonome qu'il y ait de l'électricité ou pas. Le téléphone est fabriqué, vendu, installé et utilisé exclusivement par les êtres humains. Le seul rapport des homards et des humains se résume au seul mot « comestible ». Donc apparemment, rien de commun. À ce moment-là, arrive la question, bon, on mélange, mais comment est-ce qu'on va sélectionner, comment est-ce qu'on va choisir les éléments qu'on mélange? On va décortiquer cette notion qui est apparemment, mais trompeusement simple, de mélange. Dali a en réalité utilisé deux autres outils de sa boîte à outils. Premier outil, l'inventaire. Deuxième outil, la comparaison des clés et des serrures. L'inventaire, c'est qu'on regarde de manière extrêmement attentive chacun des deux objets. C'est cette fameuse hyper-attention. On regarde un téléphone et on décortique toutes ses caractéristiques. On regarde un homard et on décortique toutes ses caractéristiques. Phase 2, la comparaison des clés et des serrures. C'est quoi ? C'est ce jeu imaginatif qui, une fois qu'on a regardé chacun de tous les éléments que l'inventaire a mis au jour, on se demande, est-ce que cet élément, c'est la clé d'une serrure présente dans l'autre objet? Pour parler concrètement, on va découvrir qu'un téléphone et un homard, ils ont deux traits en commun, deux caractéristiques qui vont l'une avec l'autre, comme une clé et une serrure. Premièrement, le téléphone est protégé par une coque légère et rigide. Le homard aussi, il est protégé par un exosquelette léger et rigide. Deuxièmement, dans les deux cas, cette protection extérieure est recourbée à une extrémité. L'écouteur du vieux modèle de téléphone utilisé par Dali, il est plus épais par le bout du micro que par le bout du haut-parleur, un peu comme la queue du homard qui, recourbée, semble plus épaisse. Phase 3, évaluation froide. Le critère pour Dali est la capacité à étonner, à provoquer un choc poétique, à faire rire. Un téléphone dont l'écouteur est un homard, ah oui, cela ne peut qu'étonner. Un objet électromécanique et parlant, construit avec un animal humide et muet, ah oui, ça provoque un choc poétique. Un objet agaçant par l'autorité qu'il exerce sur nous et par les mauvaises nouvelles qu'il claironne, soudain associé à un animal savoureux mais aux pinces désagréables si elles nous mordent, oui, ça fait rire. Les bonnes élèves et les bons élèves auront remarqué qu'en filigrane dans cette œuvre du téléphone Omar se trouve ce que les théologiens appellent la coincidentia oppositorum, la coïncidence des opposés. Moi, je préfère appeler ça les contraires réunis. Machine, animal. Sec, humide. Dépendant, autonome. Parlant, muet, etc., etc. Les contraires réunis, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans Dali. J'en veux pour exemple une autre œuvre, peut-être la plus célèbre de Dali, qui s'appelle « Persistance de la mémoire ». Alors tout le monde a oublié le titre, mais si je vous dis le tableau des montres molles, c'est ce tableau, il y a un arbre mort qui a une branche, et puis sur la branche pend, comme un linge mouillé qu'on voudrait faire sécher, une montre molle. Comment est-ce que ça fonctionne, ce tableau des montres molles? C'est très simple, on va appliquer nos outils. Le plus bref inventaire d'une montre constate que la montre, c'est ronde. Bon, ok, les horlogers ont donné des tas de formes aux montres, mais la montre, la mère des montres, elle n'est ronde. Le camembert aussi. Dali adorait le camembert. Alors l'inventaire du camembert dit « un camembert, c'est rond ». L'inventaire de la montre dit « elle est ronde ». Fallait-il donc se contenter de peindre une montre camembert? Ça aurait été banal, parce que n'importe qui peut constater que les montres et les camemberts, c'est également rond. Alors Dali pousse l'inventaire plus loin qu'un simple assemblage clé-serrure. Un camembert, c'est toujours mou, ou alors il n'est pas bon. Une montre, c'est toujours dur, ou alors elle ne fonctionne pas. Alors là, Dali, ravi, se frotte les mains et applique un contraire réuni. Il le choisit avec soin. Un camembert rigide, ça n'est pas plus plaisant à l'œil qu'au palais, et hors de France, un camembert, ça n'est pas un archétype, et donc ça ne serait pas compréhensible. Et puis un camembert dur, ça n'est ni drôle, ni intéressant. En revanche, une montre molle, ça c'est drôle. Ça utilise un archétype mondialement connu, et puis ça permet aux paresseux de disserter avec prétention sur la fuite du temps qui coule comme un camembert.
Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait le gaz citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat poil au bras. Mais chez mon pâtissier, il n'y en a plus, c'est vendu. C'est pourquoi je n'en ai pas pris, tant pis pour lui. Et j'ai mangé pour tout dessert du camembert. Le camembert c'est bon quand c'est bien fait, vive l'amour. À ce propos, revenons à nos moutons. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Vendre des glaces, c'est un très bon métier, poil au pied. C'est beaucoup mieux que marchand de mouron, pas très bon. Marchand de mouron, c'est pas marrant. J'ai un parent qui en vendait pour les oiseaux. Mais les oiseaux n'en achetaient pas, ils préféraient le crottin de mouton. À ce propos, revenons à nos agneaux. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Mais la Castille, ça n'est pas l'Aragon, ah mais non. Et l'Aragon, ça n'est pas la Castille. Et la fille s'est passée de glace au citron avec vanille. Et le garçon n'a rien vendu, tout a fondu. Dans un commerce, c'est moche quand le fond fond poil au pied. À propos de pied, chantons jusqu'à demain. Au pays d'Agraragon, il y avait une fille qui aimait les glaces citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron.
L'un des exemples les plus réussis de contraires réunis, c'est une œuvre surréaliste très célèbre, qui n'est pas de Dali, mais de la surréaliste américaine Meret Oppenheim. Et c'est une tasse à café toute bête avec sa soucoupe, en fourrure. Alors cet objet stupéfiant naquit d'un inventaire rigoureux. La porcelaine est rigide, la fourrure est souple. La porcelaine est un grain serré, la fourrure est une gerbe de petites unités séparées. La tasse est artificielle, la fourrure naturelle. La tasse à café est très bon marché, la fourrure est très chère. La tasse à café sert à la maison, à l'intérieur, la fourrure se porte dans la rue. La tasse contient des liquides qui tachent, la fourrure doit être protégée des liquides qui tachent. La tasse de café réchauffe le corps en y versant un liquide chaud, la fourrure réchauffe le corps en le protégeant des liquides froids venus de l'extérieur. Donc voilà pourquoi cet objet nous sidère et nous ravit, cette tasse à café en fourrure. Mais, on vient donc d'analyser le mélange. Le mélange, c'est un ajout. On ajoute un homard à un téléphone. Mais chez Dali, au moins, il y a un mécanisme presque aussi fréquent qui consiste à retirer. Alors, si on prend deux tableaux comme la Madone de Porrigat ou la Leda Atomica, alors je vous rappelle ce que c'est en particulier la Leda Atomica, c'est Gala, peinte en femme nue, en Vénus nue, et elle est en lévitation. Elle est sur une espèce de trône, mais le trône est en l'air, et puis il y a un cygne également en lévitation, il n'est pas en vol, il est bien en lévitation, il y a des gouttes d'eau en lévitation, il y a, je crois, un livre en lévitation, etc. Comme un prestidigitateur qui veut endormir le spectateur en montrant que le chapeau haute forme est normal, sans double fond ni lapin, Dali commence donc par peindre une Madone ou une Leda, donc en fait sa femme Gala, de manière tout à fait réaliste, classique. Et puis, il retire leurs appuis à tous les objets qu'il devrait en avoir. Il retire la loi de la gravitation universelle. Et pour que l'on y croie dur comme fer, il peint des ombres sous ces objets qui lévitent en l'air, comme les falaises et les collines derrière la Madone, qui ont des ombres sous elles. Ou mieux encore, l'eau de mer de la Leda, eh bien elle aussi, elle est dotée d'une ombre aussi inattendue que logique. Et ceci, c'est cet artifice absolument génial, évidemment, c'est essentiel dans toute l'histoire de la peinture occidentale. C'est quand Giotto en particulier a commencé à mettre des ombres que la peinture occidentale a pris la direction de l'illusionnisme fanatique qui fonctionne sur ce dont j'ai déjà parlé dans les émissions précédentes, sur ce principe, cette réalité, que le spectateur, que la spectatrice sont toujours les co-créateurs du tableau ou d'une manière générale des œuvres d'art. En mettant des ombres sous les objets, on permet à qui regarde le tableau ou l'œuvre de créer l'objet représenté en trois dimensions alors qu'il n'est représenté que en deux dimensions. L'une des limites les plus pesantes de notre esprit vient de notre prudence. Nous n'aimons pas beaucoup nous pencher sur ce qui nous menace. Dali, lui, il s'y complaît. Et alors très souvent, se retirer chez Dali, ça inclut une prise de risque physique. Parce que dans le monde réel, les lévitations, ça se terminerait mal. Si on planait en l'air, ben, désolé, au bout d'un moment, on tomberait et on se ferait fort mal. Et attention, cette prise de risque physique, très souvent, les artistes s'en servent, et j'en veux pour preuve le très célèbre début du film de Buñuel, Le chien andalou, où une jeune fille attend qu'un rasoir lui déchire l'œil, ce qui arrive en plus un instant après. Retirer, ça n'est que l'un des nombreux changements que l'on peut infliger à un objet. On peut l'évider, par exemple comme le torse de la Madone de Porrigat, ou au contraire, on peut y insérer quelque chose. Et puis, très simplement, on peut le retourner dans l'espace pour le présenter sous un angle rare. Donc cette rotation dans l'espace, elle est peut-être la plus étonnante dans une œuvre de Dali qui s'appelle « La gare de Perpignan ». Alors la gare de Perpignan, 1965, c'est une contre-plongée extrême. Dali, dont la culture picturale était immense, connaît parfaitement bien les plafonds des églises baroques et leur merveilleux effet de réalité, parce que tous ces angelots et ces saints et ces saintes, eh bien, on aperçoit d'abord quoi ? Leurs grands pieds, et dont les petites têtes sont levées vers le dieu barbu à peine discernable là-haut. Alors Dali reprend cette idée, et dans la gare de Perpignan, eh bien, il a mis un bonhomme qu'on voit en contre-plongée extrême, et pour renforcer cette impression de hauteur, il a mis ce bonhomme au point focal de la perspective. Puis pour être sûr qu'on ne va pas louper ce point focal, il trace quatre énormes rayons de soleil qui en émanent. Et pour insister sur le fait que ce bonhomme est au centre du monde, la gare de Perpignan selon Dali, eh bien, il dispose de part et d'autre du bonhomme les deux paysans priants de l'Angélus de Millet, de Jean-François Millet, qui est au musée d'Orsay. Alors là, on voit qu'on a deux procédés à l'œuvre. Premier procédé, donc, la rotation dans l'espace pour la contre-plongée, mais aussi l'hyperbole, l'exagération. L'hyperbole, ça a le grand avantage de produire des effets frappants sans que la chaîne mentale qui nous conduit à la découverte de ces effets soit trop longue, trop éprouvante. J'en veux pour preuve un autre tableau très célèbre de Dali. Attention, le titre est très très long. « Rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade une seconde avant l'éveil. » Alors, pour visualiser ce tableau, c'est assez simple. Vous avez au centre du tableau une femme nue qui est visiblement en train de dormir et son bras est piqué par un coup de baïonnette d'un fusil et le fusil, lui, vient d'une abeille. Cette baïonnette sort d'un tigre et le tigre sort d'une grenade, une grenade, le fruit. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est donc un rêve causé par le vol d'une abeille, une toute petite abeille, autour d'une grenade. Et l'abeille va piquer la grenade. Et le rêve, c'est que la sensation de la piqûre est agrandie en coup de baïonnette. Et le bruit, le bourdonnement de l'abeille en vol, y est agrandi en rugissement de tigre.
West. 10 years ago I bought you some cufflinks.
Cacher la simplicité de l'astuce, la simplicité de cette hyperbole, Daly brouille les pistes en introduisant premièrement un retrait, un retiré, sa femme nue flotte en l'air sans point d'appui, et puis deux autres techniques. Une technique très fréquente dans le cinéma, dans le théâtre, dans la bande dessinée, le pince sans rire. Le pince sans rire, ça consiste à ne pas attirer l'attention sur quelque chose d'incongru, comme si cette chose incongrue était toute naturelle. Le contraste entre l'incongruité d'un côté et l'absence de réaction de l'autre, c'est-à-dire la déclaration implicite que « tout va très bien, Madame la Marquise », ça déclenche soit le rire, soit l'effet d'étrangeté. Ici, le pince sans rire naît du spectacle assez peu commun d'un éléphant à pattes extrêmement fines, avec un obélisque sur le dos, qui se promène à droite du tableau, totalement indifférent, à l'accouchement par une grenade d'un poisson très énervé qui crache des tigres, qui crache un fusil. Et puis, ce rêve causé par le vol d'une abeille autour d'une pomme grenade une seconde avant l'éveil illustre une seconde technique qui a un nom que tout le monde connaît. Le marabout de ficelle. Tout le monde connaît la chanson enfantine « Marabout, marabout, bout de ficelle, sel de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, etc. » Vu de façon un peu théorique, il s'agit là d'isoler un trait commun à deux éléments différents pour s'autoriser le passage du premier élément vers le second, puis d'un second vers un troisième, d'un troisième vers un quatrième, et on pousse la chaîne aussi loin qu'on le souhaite ou qu'on le peut. La grenade, elle est rouge, comme un rouget, dont j'ai oublié de mentionner qu'il était dans le tableau. Le rouget est monstrueux parce qu'il est énorme, il est monstrueux comme un tigre, le tigre est strié de jaune et de noir comme une abeille, l'aiguillon de l'abeille pique comme une baïonnette. Dérouler toute la chaîne du marabout de ficelle s'avère donc très intéressant, très fécond, mais il y a une technique encore plus intéressante, c'est que quand vous avez fait un marabout de ficelle, eh bien, vous en enlevez des maillons. Je m'explique avec le célèbre vers de Paul Éluard, « La terre est bleue comme une orange ». Dit comme ça, la terre n'est pas bleue comme une orange, mais tout le monde adore ce vers. Eh bien, c'est très simple. Qu'est-ce qu'il a fait, Paul Éluard? Il a retiré juste deux mots de la constatation banale que la terre bleue est ronde comme une orange. Et il lui a suffi donc de retirer ces deux mots pour avoir cette phrase absolument étonnante, la terre est bleue comme une orange. Encore un mécanisme fréquent dans Dali. Le sapeur Camembert, à qui le sergent Biture ordonne de creuser un trou pour y déposer des ordures, ne sait pas où mettre la terre qu'il a déterrée du trou. Alors il creuse un deuxième trou, mais il ne sait pas où mettre la terre qu'il a déterrée du deuxième trou, alors il creuse un troisième trou. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Les mathématiciens vont peut-être parler de fractal, mais on va parler de mise en abîme. Dali est l'un des très très grands spécialistes d'un des principes essentiels de tout art qui se veut un petit peu absurde, un petit peu innovant, un petit peu rêveur. C'est la cohérence dans la folie. Qu'est-ce que c'est que la cohérence dans la folie? Eh bien, c'est le fait de maintenir le plus de réalisme et de cohérence possible à chaque fois que l'on introduit un élément irréaliste, impossible ou incohérent, afin que cette cohérence générale permette la suspension du scepticisme, en anglais la fameuse suspension of disbelief, qui est indispensable à toute fiction. En langage simple, pour que l'on puisse choisir de croire à une histoire à dormir debout, il faut quand même qu'elle tienne un peu debout. Reprenons notre Leda Atomica. Les ombres qui indiquaient que les objets lévitent, eh bien, elles sont bien là pour mettre de la cohérence dans la folie, puisque dans le monde cohérent, dans le monde réel, il y a des ombres. Dans Persistance 2, la mémoire, ce tableau des montres molles, eh bien, là aussi, il y a une cohérence de la folie, tout simplement parce que il y a trois montres molles, et chacun sait que insister, c'est être dans la vérité, n'est-ce pas? Ou encore, dans le célèbre photomontage de Marilyn Monroe as Chairman Mao, Marilyn Monroe en président Mao, là, la cohérence dans la folie, elle réside dans le choix extrêmement soigneux de deux photographies au grain et à la luminosité exactement semblables, afin que Marilyn Monroe puisse porter, sans à-coups visuels, la coupe et le col de Mao Tse-tung. Nous avons beaucoup parlé de Dali. Rappelons que Dali est un grand peintre, mais que politiquement, ça a été un affreux facho, franquiste, abominable. Glissons.
Il n'était pas franquiste.
Ouais, il n'était pas exactement franquiste.
Il était opportuniste.
Il était opportuniste, on va le dire comme ça. Et on va le comparer donc à quelqu'un qui, du point de vue artistique, est très voisin et qui, du point de vue politique et humain, a été complètement différent. C'est bien entendu René Magritte. Magritte, comme Dali, au départ, est un surréaliste. Magritte, comme Dali, a quand même fini par fuir la houlette, un rien pesante, d'André Breton. Magritte, comme Dali, pour autant qu'on le sache, n'a aimé qu'une seule femme, son épouse, toute sa vie. Magritte, comme Dali, a peint des images mondialement connues. Magritte, comme Dali, a peint des images parmi les plus inattendues de toute l'histoire de l'humanité. Mais Dali a dit, avec justesse, « La seule différence entre un fou et moi, c'est que moi, je ne suis pas fou. » Magritte, lui, n'a jamais joué au fou, et personne n'a jamais pensé qu'il était fou. Dali, toute sa vie, a eu peur qu'on le croie normal. Magritte, quoique révolutionnaire, n'a jamais eu peur qu'on sache qu'il était parfaitement normal. Dali, toute sa vie, a voulu se faire remarquer, lui. Magritte, toute sa vie, a voulu qu'on remarque sa peinture, pas lui. Magritte et Dali furent de grands poètes. Dali fut un poète sauvage, ne se servant d'outils rationnels, la perspective, le réalisme, la géométrie, que pour servir l'irrationnel. Magritte fut un poète calme, ne se servant d'outils irrationnels, l'inattendu, la surprise, la contradiction, l'impossible, que pour servir le rationnel. Personne de plus logique que Magritte. Commençons par exemple par son œuvre peut-être la plus célèbre. Alors elle est célèbre visuellement, le titre est beaucoup moins connu, La trahison des images. La trahison des images, vous verrez une fois qu'on y réfléchit, c'est un excellent titre. Alors c'est très simple, c'est le tableau célébrissime où vous avez une pipe qui sert à fumer du tabac, et écrit sous la pipe, ceci n'est pas une pipe. Il est très logique ce tableau parce qu'effectivement, Magritte nous dit bien, il a parfaitement raison, que ceci n'est pas une pipe. Ce qu'il a peint au-dessus des mots, au-dessus de la phrase « ceci n'est pas une pipe », ça n'est pas une pipe, c'est une image de pipe. Magritte est quelqu'un qui a voulu toute sa vie nous apprendre à nous méfier des peintres, à nous méfier de notre dangereuse tendance à confondre la réalité et nos copies de la réalité. C'est quelqu'un qui nous avertit que plus une image est réaliste, plus elle est illusionniste, c'est-à-dire plus l'illusion qu'elle génère est crédible, alors plus elle ment. Magritte, encore plus que Dali, a appliqué systématiquement la cohérence dans la folie. Regardons par exemple un pastiche hilarant d'un tableau très célèbre, le portrait de Madame Récamier par David. Par Magritte, ça s'appelle « Perspective, Madame Récamier de David ». Magritte y montre une copie très bien faite du tableau de David. On y retrouve la lampe à l'antique, les deux traversins verts, le sofa, le marchepied au pied du sofa, et puis Madame Récamier. Puisque Madame Récamier, à l'époque où Magritte peint son tableau, puisque dans la réalité elle est morte depuis longtemps, eh bien ce que Magritte peint à sa place, c'est un cercueil. Oui, mais un cercueil, d'habitude, c'est allongé, il n'y a pas d'angle. Mais là, Magritte a l'idée de génie de donner au cercueil qui représente Madame Récamier la forme inouïe, ou plutôt jamais vue, d'une personne assise sur un canapé. Cohérence jusqu'à la folie. Thank you. général, et dans la peinture en particulier, les titres sont immensément importants. Et comme Magritte veut nous montrer que la peinture illusionniste ment, il va donc aussi nous montrer que les titres mentent. Alors, prenons par exemple un tableau qui s'appelle « La condition humaine ». Il n'y a pas une seule image avec un être humain dans ce tableau. Prenons le modèle rouge. Il n'y a pas une seule tache de rouge dans ce tableau. À nouveau, nous avons vu que la trahison des images, là, c'est un titre honnête pour l'image d'une pipe et non pas pour une pipe tout court. Parfois, quand même, il a des titres extraordinairement poétiques si on y réfléchit quelques secondes. Et là, je vais parler d'un tableau qui est un autoportrait où on voit Magritte un peu de dos et qui est en train de peindre un œuf. Un tableau qui s'appelle la clairvoyance. Alors la clairvoyance, c'est le fait de voir dans le futur, n'est-ce pas? Alors ce tableau, c'est un autoportrait. On voit Magritte de dos et il se représente en train de peindre. Mais comment est-ce qu'il se représente en train de peindre? Il regarde un œuf, donc c'est l'œuf qui lui sert de modèle, mais ce qu'il peint sur le tableau, c'est un oiseau. Un œuf, c'est un futur oiseau. Un oiseau, c'est un ancien œuf. C'est bien la clairvoyance qui se passe. Prenons aussi un tableau étonnant qui s'appelle « La reproduction interdite », portrait d'Edward James. Et alors là, entre « Cohérence dans la folie » et « Titre qui vous induit en erreur », c'est assez fabuleux. Qu'est-ce qui se passe dans « La reproduction interdite » ? Au lieu de faire comme dans tous les portraits où on peint le visage du modèle, là, Magritte, déjà innove, parce qu'il peint non pas le visage du modèle, mais la nuque du modèle. Ce qui, après tout, colle avec le titre du tableau, la reproduction interdite. Mais ça devient beaucoup plus subtil, parce que cet homme, dont on ne voit que la nuque, se tient devant un miroir. Donc, on pourrait s'attendre à ce que le miroir, lui, reflète son visage. Ce serait logique, non? Le miroir ne reflète que sa nuque. La reproduction est bien interdite. À nouveau, Magritte nous prévient, méfiez-vous, la reproduction, la représentation sont des choses absolument trompeuses. Alors Magritte va pousser ça très loin. Magritte est un peintre à la fois très drôle et très philosophique, très intellectuel, et heureusement, ça fonctionne très bien. Ce qu'il en tire, c'est que représenter une chose par une image, ça n'est pas plus réel que de la représenter par un mot. Parce que ce que Magritte veut dire, c'est que si on peut faire dire n'importe quoi aux mots, on peut aussi faire faire n'importe quoi aux images. Et dans les deux cas, la chose réelle, la chose elle-même, eh bien, elle n'est pas là. Alors, il l'a fait de manière un petit peu naïve, mais en même temps très pédagogique, dans un tableau qui s'appelle « Le masque vide », celui de 1928. Et c'est un tableau qui représente l'envers d'un tableau. Non pas la toile plate et nue, mais le cadre de bois derrière la toile. Et ça divise le tableau en quatre. Et dans chacune des quatre zones, il y a un mot. Alors, il y a le mot « ciel ». Il y a le mot « corps humain », entre parenthèses, ou « forêt », le mot « rideau » et les mots « façade de maison ». Évidemment, pas l'ombre de l'image d'une façade, du ciel ou d'un rideau. Il a fait ça plusieurs fois dans d'autres tableaux. J'avais dit dès le départ de ces émissions sur l'art moderne qu'il faut toujours se souvenir que un tableau veut faire croire, un tableau occidental, illusionniste, classique, un tableau veut faire croire qu'il représente la réalité en trois dimensions. Mais un tableau, ça n'est jamais qu'un objet en deux dimensions, contrairement à la réalité. Pour le dire très simplement, un tableau veut faire croire qu'il est creux, alors qu'il n'est que plat. Puisque le tableau veut nous faire croire qu'il est creux, vengeons-nous et creusons des creux supplémentaires dans le tableau, et encore des creux dans ces creux supplémentaires. Le tableau qui s'appelle « La condition humaine », dont j'ai parlé il y a quelques instants, et qui ne représente strictement rien d'humain, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une toile sur un chevalet. Cette toile dans le tableau, hein, peinte par Magritte. Cette toile présente une image de la mer, donc le tableau dans le tableau représente la mer, mais ce tableau est présenté comme s'il était dans un appartement en face d'une fenêtre. La fenêtre donne sur la mer et tout ceci est si parfaitement jointé qu'on ne sait plus quelle est la mer prétendue réelle, quelle est la mer peinte sur le tableau, peint par Magritte dans le tableau général. Magritte a peint un tableau étonnant qui s'appelle le faux miroir. Ce tableau, tout simplement, c'est un œil, un énorme œil humain. Et dans la pupille de l'œil se reflètent un ciel et des nuages. Seulement, on ne sait pas très bien si là, l'œil est seulement un vrai miroir qui se contente de refléter le ciel. Après tout, ça nous arrive de voir dans les yeux de nos partenaires, de nos amis, des reflets du monde extérieur. Donc là, on ne sait pas vraiment si c'est un vrai miroir, parce que le reflet est vraiment trop clair, trop net. En fait, tout d'un coup, on comprend que l'œil là, il n'est qu'une porte, un trou vers le ciel, et donc ça veut dire que derrière cet œil, derrière le tableau, il y a le ciel, il y a un creux. Arrivé à ce point, on se souvient qu'un tableau, c'est plat, et qu'aucun œil ne permet à celui qui le regarde de face de voir ce qui se trouve derrière cet œil. Et là, on est pris de complet vertige, de complète confusion, exactement ce que Magritte voulait induire. Encore une manière que Magritte a de nous jeter dans le vertige, eh bien, c'est de mélanger le fond et la forme. L'inversion du fond et de la forme, c'est très efficace et c'est très difficile. Il faut pour ça consulter un tableau au titre étrange, le blanc-seing. Vous savez, ce mot, cette expression un peu bizarre, juridique, B-L-A-N-C, trait d'union, S-E-I-N-G, donc le blanc-seing, la signature en blanc, et dans lequel Magritte représente, quand on regarde la première seconde, on se dit, c'est une cavalière sur un cheval dans une forêt. Donc il y a une cavalière, il y a un cheval, il y a les arbres d'une forêt. Et puis, à la deuxième, à la troisième, à la quatrième seconde, on se rend compte que Magritte a joué avec les arbres, et qu'on ne sait plus si les arbres sont en face de la cavalière ou derrière la cavalière, donc on n'arrive plus à voir s'il y a un fond ou deux fonds, ça devient extrêmement compliqué. Et c'est là ce que fait souvent donc Magritte. Pour résumer tout ceci, je dirais que le principe essentiel que nous ont donné tant Magritte que Dali, c'est la cohérence dans la folie. Plus vous voulez faire quelque chose de surprenant, plus vous voulez dépasser le réel, plus vous voulez entrer dans l'irréel, dans l'irrationnel, plus vous avez besoin que ce qui entoure votre étonnante création soit ancré dans le réel, qu'elle soit totalement crédible. Et c'est ça la grande leçon que l'on peut retirer de Magritte et Dali.
Pourquoi est-ce qu'on lit souvent à Magritte Delvaux ?
Magritte et Delvaux sont liés par une question d'atmosphère. Alors je rappelle ce que sont très souvent les tableaux de Delvaux. Ce sont des personnages, très souvent des femmes, mais aussi parfois des hommes avec le petit chapeau melon de Magritte d'ailleurs. En général, vu la nuit, alors ça peut être des femmes nues avec, ou avec pas beaucoup de vêtements, dans une attitude en général hiératique, un peu comme une statue de marbre. On hésite, on ne sait pas très bien si ces femmes sont des statues, si ce sont des femmes vivantes ou si ce sont des images de rêve. D'autant qu'en général, elles sont placées dans des ambiances urbaines, mais des villes vides, un peu à la Giorgio de Chirico. Et donc, bien entendu, c'est une atmosphère très onirique chez Delvaux. Or, Magritte, dans beaucoup de tableaux, va mélanger, on parlait de l'inversion du fond et de la forme, eh bien, il va mélanger le jour et la nuit. Il fait des tableaux où, par exemple, le ciel est un ciel de jour, et puis juste au-dessous du ciel, là où il doit y avoir donc la terre et les arbres, la forêt ou une rue, et puis avec un lampadaire allumé, alors qu'il fait grand jour. Et puis les maisons qui sont derrière le lampadaire sont bien sombres, comme si c'était la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de choses en commun entre Magritte et Delvaux. Mais ce sont là des choses esthétiques. En réalité, le but de l'un et le but de l'autre sont très différents. Magritte, c'est vraiment quelqu'un de très intellectuel, qui veut vous donner une idée, qui veut vous nettoyer les yeux, ou plus exactement, qui veut vous nettoyer la tête, alors que Delvaux, c'est uniquement un poète. Delvaux, c'est quelqu'un qui veut vous emmener dans une atmosphère différente. C'est quelqu'un de très lyrique, ce que Magritte n'est quasiment jamais. Ou plus exactement, il arrive à Magritte d'être lyrique, mais c'est très indirect. C'est un résultat du fait qu'on contemple son tableau et puis qu'on réalise que malgré tout, son tableau est très étrange, donc il nous emmène ailleurs. Mais, donc ce sont deux artistes qui se ressemblent, mais qui sont quand même bien séparés.
Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, Delvaux fait une place plus importante à la chair ?
Ah, complètement. Magritte va avoir une période étrange pendant la Seconde Guerre mondiale où il va peindre de manière totalement différente de ce qu'il peint d'habitude. Ce sont des toiles que beaucoup de gens, dont je suis, ne trouvent pas très bonnes, mais où, là, il va se permettre quelque chose d'un petit peu érotique. Pas beaucoup, mais enfin, il y a des femmes nues, et des femmes nues peintes visiblement par un homme qui désire. Alors, elles ressemblent toutes à sa femme, il a toujours été amoureux de sa femme, qui était très très belle, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes nues dans l'œuvre de Magritte, il y en a quelques-unes, mais leur charge érotique est à peu près inexistante. Alors que pour Delvaux, il y a quand même un certain côté désirable, mais qui est immédiatement contredit par cette atmosphère un peu nocturne, certes, mais surtout un peu glacée. Et les femmes peintes par Delvaux sont des femmes en général, donc comme je l'ai dit, hiératiques, elles bougent très très peu, elles sont très blanches, donc elles font beaucoup penser à des statues de marbre, même si elles n'ont pas exactement l'air de statues de marbre. Dans Magritte, en revanche, le désir sexuel, quand il est là, il est moqué gentiment. Et de toute façon, il est toujours complètement mineur.
Si on prend par exemple ces trois peintres et qu'on fait une comparaison entre la manière dont ils ont peint les corps de femmes.
Je ne connais pas la sexualité de Delvaux. Si sa sexualité réelle correspond à ce qu'on voit dans les tableaux, c'est très onirique, c'est très poétique, c'est très romantique. Magritte, donc, c'est quelqu'un qui probablement avait une sexualité normale, comme le reste de sa vie et de son personnage. Et Dali, lui, certainement un homosexuel refoulé, et peut-être pas si refoulé que ça, mais en tout cas très complexé par son côté homosexuel. On sait que, par exemple, qu'il a couché avec Federico Garcia Lorca, qui était raide dingue amoureux de lui. Il n'est pas dit que lui, Dali, était spécialement amoureux de Garcia Lorca. Le problème avec Dali, c'est qu'il avait un frère jumeau qui est mort. Toute sa vie, il s'est toujours posé la question, qui suis-je, moi ou mon frère jumeau? Et donc, il y a ce rapport étrange à l'homosexualité, puisque le frère jumeau, c'était bien un frère jumeau, pas une sœur jumelle. Et donc, il y a un rapport étrange avec qui est son semblable. Et avec les femmes, il est un peu sadique. Il a une obsession maternelle évidente que Gala, son épouse, avait immédiatement identifiée. Alors, je rappelle l'anecdote célèbre. Gala, donc la femme de Paul Éluard, rencontre Dali. Elle le juge, elle le soupèse, elle le comprend, et tout d'un coup, elle se plante devant lui. Elle était plus petite que lui. Il était grand, il était beau, il était jeune, il était célèbre, tout ce qu'on veut. Se plante devant lui, beaucoup plus petite. Elle lui met la main sur l'épaule et elle lui dit « Mon petit, nous ne nous séparerons plus jamais. » Et crac, l'histoire d'amour a commencé et ils sont restés ensemble toute leur vie. Je rappelle que Gala était une petite Russe, très intelligente, très déterminée. Et quand même, d'abord avec Paul Éluard, ensuite avec Dali. Et puis, ensuite, pendant la vie de Dali, ça a été très compliqué. Ils ont fait beaucoup de choses très sexuelles, avec ceci que c'était Gala qui se tapait principalement des jeunes messieurs, éventuellement quelques jeunes dames, mais principalement des jeunes messieurs, sous les yeux de Dali. Les belles demoiselles et les beaux garçons qui venaient s'ébattre avec sa femme devant ses yeux. L'une des œuvres célèbre de Dali. Et alors c'est très amusant parce qu'elle est à Paris, dans le siège social de Pernod Ricard, rue d'Amsterdam. C'est une œuvre qui représente la pêche au thon, hein, la pêche au thon qu'on fait en Catalogne. Et la première fois que j'ai vu cette œuvre dans ce siège social de Pernod Ricard, j'étais mort de rire parce que c'est un éloge de l'homosexualité. C'est un éloge un peu inconscient, mais absolument évident. Alors Dali s'y est représenté en jeune homme, en maillot de corps, en Marcel, avec des belles moustaches, beau jeune homme sexy. Et autour de lui, il y a trois figures masculines, l'une vue derrière avec des fesses bien rebondies, celle au milieu avec un pénis bien pendant, avec une fente sur le gland, mais évidente d'aller au centre du tableau, c'est le point focal de la perspective du tableau, et sur la gauche, un Apollon du Belvédère. Et puis, dans un tout petit coin, une toute petite femme avec un gros cul, qui visiblement c'est le corps habituel de son épouse Gala. Mais elle est toute petite par rapport à ces trois hommes sexy, beaux, jeunes, plus Dali lui-même dans ce tableau. Donc,
c'est une vengeance.
Ah, complètement. Mais complètement, complètement. Leur relation aux femmes a été totalement à l'opposé pour les trois. Et là, à nouveau, c'est l'un des facteurs d'opposition totale entre Magritte et Dali. Magritte, l'hétérosexuel, gentil, monogame, amoureux, heureux a priori, et Dali le torturé, un peu pervers sur les bords, sachant pas ce qu'il faisait, et
paranoïaque
et complètement manipulé par une femme qui aimait beaucoup l'argent, mais qui en a gagné beaucoup grâce à Dali.
The stiff upper lip, like a dog.
Yeah. Shoot from the hip, I got a stiff.